comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
L'image première de Calais, les six bourgeois.
Calais est Calais, car vous donnez la preuve à Calais de l'unité française. Dès lors que nous sommes ensemble, il s'établit entre nous tous une sorte d'accord et qui nous rejoint tous sur une volonté commune. Sur une volonté commune, celle de faire notre France plus prospère, plus forte et plus fraternelle.
Calais, cité de l'unité à l'époque du général, Calais c'est non seulement la ville française la plus proche de l'Angleterre, qui aurait pu être anglaise, mais encore la cité qui, après un siège de 11 mois, en 1347, a su rassembler ses dernières forces, écouter son premier échevin, Eustache de Saint-Pierre, trouver en son sein une délégation de six bourgeois, assez déterminés pour faire face à l'anglais impérieux, lui offrir debout et fièrement leur vie et donc s'affirmer pour le futur comme les véritables vainqueurs. Chef-d'œuvre de Rodin en a témoigné depuis son érection en 1895. Mais les générations d'après 1970 sont venues, qui se demandèrent avec raison qui était vraiment cet Eustache de Saint-Pierre et qui considérèrent un peu ces bourgeois comme des étrangers à notre époque. Même à Calais, le cœur n'était plus à leur célébration. Calais changea à ce moment de modèle économique. Premier port de passagers de France, la ville voulait s'affirmer comme le lieu du commerce européen le plus pacifique qui fût. Mais voilà qu'ont afflué des milliers et des milliers de réfugiés qui témoignaient des terribles guerres du monde. Quand il leur arrivait de se hasarder jusqu'au cœur de la ville, qu'ont-ils pensé, ces réfugiés? Des personnages de Rodin qui sont toujours là, posés sur la place, presque à hauteur d'homme. Quant au langage du général de Gaulle sur la France fraternelle, qui s'en souvient?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Marie Méglin, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Auteur il y a quelques années d'un beau livre sur les bourgeois de Calais, sur la représentation des six bourgeois, sur le mythe aussi qui a traversé l'histoire de France, c'est chez Albin Michel. C'est une représentation nationale dont on va parler maintenant. Calais est visité par les médias du monde entier, par des cadreurs de toutes les télévisions, par des associatifs, des humanitaires d'un peu partout. Et c'est une image mondiale qui va lui coller à la peau. Mais revenons, si vous le voulez bien, vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge.
Absolument.
Revenons à 1346. On reparlera du présent un peu plus tard dans l'émission. Depuis quelques années, le roi d'Angleterre de l'époque, qui s'appelait Édouard III, se prenait pour le roi de France.
Oui, 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 tout à fait. Alors nous sommes avec la capitulation de Calais dans un des célèbres épisodes et importants épisodes de la guerre de Cent Ans. Cette guerre de Cent Ans qui avait commencé, disons, vers 1337, qui avait connu un certain nombre d'épisodes, une alternance d'épisodes guerriers et de trêves, d'événements véritablement décisifs jusqu'à cette année 1346 où Édouard III relance la guerre contre l'usurpateur Philippe de Valois, qui usurpe la couronne de France, débarque à Saint-Valahougue, en Normandie, et va mener, à travers tout le nord du royaume de France, une longue chevauchée. Alors cette chevauchée, c'est la première des grandes chevauchées de la guerre de Cent Ans. C'est une manière pour le roi de mettre au défi son adversaire, de brûler les territoires de son adversaire, de le mettre au défi, de livrer bataille contre lui, de risquer le jugement de Dieu. Et Philippe de Valois, Philippe VI, longtemps tétanisé en quelque sorte par cette arrivée d'Édouard III, qui a peur de la trahison, finit tout de même par rassembler une armée, se lance à la poursuite d'Édouard III, qui après l'avoir nargué devant Paris, remonte vers le nord, et à Crécy, en Ponthieu, c'est là que a lieu cette bataille, ce jugement de Dieu, où la grande armée de Philippe VI est battue, écrasée par l'armée d'Édouard III.
Alors, alourdi par le produit de ces pillages, le roi d'Angleterre songe quand même à rentrer chez lui, chercher un port où il pourrait concentrer ses bateaux. Il échoue devant celui-ci, celui-là, et il s'intéresse à Calais, qui est une ville où il y a, à l'époque, j'allais dire autant d'habitants que de réfugiés aujourd'hui, 7, 8
Oui, les historiens estiment qu'il y a entre 7 et 10 000 habitants. Édouard III avait bien des raisons de s'intéresser à Calais, parce que d'une part, Calais était une ville portuaire la plus proche de l'Angleterre. C'était une ville qui était à proximité immédiate de la Flandre, où Édouard III avait de nombreux amis. Et c'était une ville qui était un nid de pirates. Les Calaisiens avaient, au cours des décennies précédentes, attaquer les bateaux anglais, et par conséquent, que Édouard III fasse le siège de Calais n'est pas du tout une surprise.
Calais était-il à 100% fidèle au roi de France? Enfin, Calais assiégé, parce que le siège a duré 11 mois, et quand même content que le deuxième été du siège, le roi Philippe songe à installer à Sangatte un village de tentes qui lui permettrait peut-être de débloquer la ville, mais voilà que au mois d'août 1347, Philippe VI plie bagage et les Calaisiens se retrouvent face à eux-mêmes.
9h, Jean de Calais, il est 9h, qu'on éteigne les derniers feux. 9h, Jean de Calais, il est 9h, et notre vaillant gouverneur Jean de Vienne entend que vous dormiez. Je m'adresse bien entendu à ceux que la faim n'a pas encore fait crever. Comme vous pouvez remarquer, mon beau capitaine, je suis un comique.
Je n'ai pas en ce moment la tête à rire.
Ah, en fait, moi non plus. Pour ne rien vous cacher, j'ai faim.
Moi aussi j'ai faim.
Alors occupe-toi de ton ouvrage. J'ai remarqué beaucoup de lumière dans les maisons, je n'aime pas cela. Je n'aime pas que l'on s'attarde à réfléchir le soir.
C'est un extrait de la dernière grande production théâtrale, Ronconi, et télévisuelle aussi, Alain Boudet, de 1963, sur les bourgeois de Calais. À bref raconté, dit une des chroniques consacrées au siège, ils mangeaient toutes ordures par droite famine. La chute est inévitable, et cette chute a un certain retentissement international, enfin européen, c'est pas comme le retentissement de la crise des réfugiés d'aujourd'hui, et fait l'objet d'assez nombreuses chroniques, parmi lesquelles vous mettez en avant, Jean-Marie Meuglin, celle de Jean le Bel, c'est un chanoine prébendier, assez bien nourri, de Liège, et celle de Froissart. Froissart, c'est un historien du roi de France?
Alors, Froissart est originaire du Hainaut, hein, de la ville de Valenciennes, qui est dans l'Empire. Froissart n'est pas, donc, stricto sensu, un historien français, il n'appartient pas au royaume de France. On peut dire que les chroniqueurs français autour du roi de France, on a longtemps considéré que Froissart était un chroniqueur favorable au roi d'Angleterre. Ce n'est pas vrai. Froissart est un chroniqueur qui veut raconter les belles prouesses qu'il voit dans cette guerre de 100 ans, une sorte de rivalité pour la prouesse entre les Français et les Anglais. Et les prouesses, en tout cas dans la première partie de la guerre, sont plutôt du côté anglais.
Et il les regarde avec une certaine neutralité. Alors de Jean le Bel, il va tirer le sel de son récit qu'il va retravailler dans de nombreuses versions. En voici une qui doit être la quatrième, la version finale, lue par Alain Fléchier. Il s'agit de l'envoi de la délégation de six bourgeois, peut-être choisis par l'échevin Eustache de Saint-Pierre, qui va se diriger corde au cou vers le camp anglais pour demander suprême humiliation les conditions de la capitulation.
Les six bourgeois, Jean de Fienne, Eustache de Saint-Pierre, Jean d'Aire, Andrieuse d'Andresse, Jacques de Vissant et son frère Pierre de Vissant quittèrent leurs vêtements. Lorsqu'ils furent en caleçon et en chemise, ils se passèrent des cordes au cou, comme il leur était ordonné. Ils prirent les clés de la ville et du fort. Chacun en tenait une poignée. Les six bourgeois avancèrent jusqu'au roi d'Angleterre et se mirent à genoux devant lui, en joignant leurs mains. Gentil sire et gentil roi, nous voici nous six, qui sommes d'anciens bourgeois de Calais et de grands marchands. Nous vous apportons les clés de la ville et du fort de Calais. Que votre très haute noblesse veuille avoir pitié de nous et nous épargne. Le roi des Anglais les regarda très furieusement, car il avait le cœur très dur et tellement rempli de colère qu'il ne pouvait parler. Et quand il parla, ce fut pour ordonner qu'on leur coupât aussitôt la tête. la noble reine, née française et qui était enceinte, pleurait si tendrement de pitié qu'elle ne pouvait se tenir debout. Elle se jeta à genoux devant son seigneur le roi et lui dit ainsi avec humilité : « Je vous prie humblement qu'en offrande au fils de Marie et pour l'amour de moi, vous offriez votre grâce à ces 6 hommes. »
Sur les instances de nombreux barons et de la reine Philippina de Hainaut, il faut le répéter, c'est un beau nom, le roi va gracier les six bourgeois, enfin, leur permettre de retourner, pas la tête haute, mais de retourner à Calais. Tout le monde est à genoux d'ailleurs, là, chez Froissart, hein.
Oui, c'est le très célèbre récit de Froissart, justement célèbre parce que dans ce récit du premier livre, Froissart montre tout son talent de littérateur et d'historien, cette capacité à rendre dramatique un épisode, ce sacrifice, ce qu'il présente comme le sacrifice des bourgeois de Calais. Le problème, c'est que Froissart raconte un événement réel, oui, les bourgeois de Calais ont capitulé en venant la corde au cou devant le roi Édouard III, mais il a transformé en une sorte de sacrifice de 6 bourgeois pour leurs compatriotes, ce qui était un rituel de capitulation relativement classique et dont il existe beaucoup d'exemples au Moyen-Âge.
Où on vient s'humilier, c'est un concours d'humilité, corde au cou, en linge, en chemise, mais on sait qu'il n'y aura pas d'exécution réelle.
Alors, c'est le modèle de ce que l'on appelle l'amende honorable qui est calqué sur la pénitence publique, c'est-à-dire un rituel religieux. Lorsque un homme ou une femme s'est rendu coupable d'un crime gravissime, un péché mortel qui l'enverrait en enfer s'il ne faisait pas pénitence, il doit faire publiquement pénitence, venir pieds nus, en chemise, éventuellement, c'est le plus lourd dans le rituel, la corde au cou, manifester qu'il a mérité la mort et qu'il ne peut obtenir la vie que si Dieu veut bien le gracier, avoir miséricorde.
Alors Jean-Marie Meuglin, vous dites les historiens se sont un peu aveuglés en ne voyant pas qu'il y avait des termes de comparaison avec ces rituels issus de l'Église et transposés au monde laïque. Mais le succès de Froissart est grand, mais dans l'épisode des bourgeois de Calais relativement limité, jusqu'au XVIe siècle, à l'heure où des nouveaux historiens très dévoués à la monarchie vont finir par nous expliquer que ces six bourgeois, ils sont plus à genoux, ils sont debout, ils se gardent même d'implorer la grâce du roi d'Angleterre, ils sont fiers et joyeux, ils sont les interprètes de la patrie.
Tout à fait, c'est ce qui change au début du XVIe siècle. Je pense que pendant longtemps, on a lu le récit de Froissart, cette sorte de double vérité que, en littérateur, Froissart avait mis en scène, en sachant qu'il s'agissait d'un rituel de capitulation. Et puis arrive le début du XVIe siècle, où un historien italien, un humaniste italien, qui est chargé d'écrire l'histoire de France à la manière de Tite Live, reprend ce récit de Froissart, ce sacrifice, ce dévouement des bourgeois de Calais, mais en fait un sacrifice pour la patrie. Ce que Froissart n'avait pas du tout dit, cet historien italien, Paul-Émile de Vérone, va dire « Les bourgeois de Calais avaient voulu donner leur vie à la patrie et ça devient à ce moment-là une sorte d'héroïsme joyeux. On se sacrifie pour la patrie. »
Mourir pour la patrie, écrira Corneille au XVIIe siècle, ce n'est pas un triste sort, c'est s'immortaliser par une belle mort. C'est d'ailleurs un peu après, au XVIIIe siècle, que le culte des héros qui se sacrifient pour la patrie arrivera à son zénith, et puis ça se prolongera longuement. Tenez, une chanson de Mick Michel, dont vous me disiez avant l'émission, je l'avais oublié, que après avoir été une grande vedette de la chanson, elle s'était tournée vers la sculpture, mais pas à la manière de Rodin.
Ils étaient six bons bourgeois qui s'offraient pour sauver les habitants affamés à Calais qui était assiégé. Mais la dame du vainqueur était là, au pied du roi son époux, elle pleura, le priant d'épargner les bourgeois de Calais. et la foule attendait. Le vainqueur se taisait, la dame suppliait, les six bourgeois priaient, et tous les cœurs battaient. Il pleuvait.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et bourgeois de Calais, nous sommes en compagnie de Jean-Marie Meuglin qui a écrit un livre sur le sujet. Le personnage principal des bourgeois, c'est Eustache de Saint-Pierre qu'on va entendre ici par la voix de Michel Etcheverry de la Comédie Française face au roi Édouard Julien Guillaumard.
Je vous avais interdit de vous présenter.
En effet, sire. Mais vous n'avez pas que je sache étendu cette interdiction à mon fils.
Cet homme me nargue! Cet homme me gêne! Dès que je l'entends, dès qu'il est en face de moi, je n'arrive plus à me sentir vraiment vainqueur! Il altère ma victoire!
Je suis Calais, sire! Calais qui s'est moqué de vous! Calais qui vous a pris une année de votre vie! Calais qui vous a dédaigné! Je suis Calais! Avec démesure! Avec orgueil! Calais est maintenant toute dans moi!
Calais est maintenant toute dans moi, je disais qu'Etcheverry, cette grande voix de bronze dans un corps d'asset, était de la Comédie Française. C'est à la Comédie Française qu'a été interprétée en 1765, ce que vous présentez, Jean-Marie Beuglin, comme le plus grand succès, peut-être, du théâtre du 18e, le siège de Calais de Debellois.
Tout à fait, en 1765 est représentée cette pièce de Debellois, d'Ormond Debellois, c'était un nom d'emprunt, qui va être un très grand succès pour le plus grand dépit de Voltaire, dont les pièces n'avaient pas connu le même succès. Et cette représentation des bourgeois de Calais à la Comédie Française, c'est en quelque sorte le premier apogée des bourgeois de Calais. Depuis le XVIe siècle, ils étaient des héros de la patrie, ils sont devenus de grands hommes de la patrie.
Sauf que va se faire entendre, à la même date, 1765-1766, une petite musique critique qui va demeurer lancinante et qui est due à un homme nommé Oudard Feudrix de Bréquigny qui s'en est allé faire des recherches à la Tour de Londres et qui a trouvé trace d'Eustache de Saint-Pierre, le héros, mais dans une situation un peu compromettante.
Oui, ce n'est pas n'importe qui. Bréquigny, c'est le grand érudit de la fin du 18e siècle, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Et évidemment, bon, la roche tarpéienne, si je puis dire, est près du Capitole. Le grand succès de la pièce de Debellois en 1765 attire l'intérêt sur les bourgeois de Calais. Bréquigny va à la Tour de Londres et il trouve des documents dans lesquels Édouard III fait des dons au principal bourgeois de Calais, à Eustache de Saint-Pierre.
Après le siège.
Quelques mois, un ou deux mois après.
Une pension même.
Voilà, absolument. Il lui rend ses biens, il lui donne une pension. Et à ce moment-là, évidemment, Bréquigny pose la question, Eustache de Saint-Pierre était-il un traître?
Alors les historiens libéraux du 19e siècle ont toujours entendu cette petite musique critique, y compris Michelet et Guizot. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. Non plus les auteurs, idéologues, des manuels d'histoire de la Troisième République. Alors, il y avait peut-être une possibilité de se débrouiller en disant, bon, au XIVe siècle, la notion de patrie n'existait pas comme aujourd'hui. Et il était le défenseur, Eustache de Saint-Pierre, de son Calais. Je suis tout Calais. Calais est tout dans moi. C'était la petite patrie.
Oui, c'est un très grand débat qui court tout au long du 19e siècle autour des bourgeois de Calais, hein, où tous les principaux historiens se sont intéressés à cette affaire. Il y a une minorité d'historiens qui va dire Eustache de Saint-Pierre était un traître, une autre minorité dans laquelle il y a quand même Chateaubriand qui va dire mais non, Eustache de Saint-Pierre est un héros de la patrie. Et puis il y a les autres, les grands historiens libéraux qui cherchent une solution et qui vont trouver cette solution en disant Eustache de Saint-Pierre n'était pas un héros de la France, de la patrie française. Il avait voulu se sacrifier pour sa ville, pour ses compatriotes, pour sa petite patrie. Voilà ce qui explique que ensuite il ait pu, ayant été lâché par le roi de France Philippe VI, il ait pu s'entendre avec Édouard III, roi d'Angleterre.
Alors les notables de Calais sont sur cette position qu'ils défendent mordicus. Ils cherchent à ériger un premier monument, ça aurait pu être David d'Angers. Ils réussissent à monter un comité pour le deuxième, pour un deuxième monument. Pas de pôle à la banque où étaient déposés les montants de la souscription fait faillite. Ça fait rien, on recommence, et ce deuxième monument, il est confié à Rodin, qui doit entendre aussi la petite musique que vous dites, parce qu'il ne représente pas seulement Eustache de Saint-Pierre, il représente les six bourgeois. Voici la description du monument telle qu'elle est faite aujourd'hui par l'audioguide de Calais, et ensuite on entendra de nouveau Alain Fléchère, qui lisait tout à l'heure Froissart et qui a la possibilité de tenir tous les rôles, c'est le directeur de l'école d'art du Fresnois.
Le linge trempé dans le plâtre épouse la nervosité des corps et la découpe des tuniques met en valeur les mains et les pieds que Rodin charge d'une grande force expressive. Plus que le détail du visage, c'est la posture générale de chaque personnage qui traduit ses émotions. Ainsi, la tête de Jean d'Aire est reprise et dissimulée sous la barbe de Jacques de Wissant, tandis que les mains d'Andrieux d'Andresse la recouvrent dans un mouvement de désespoir.
Ce n'est donc pas un groupe, mais une sorte de chorégraphie avec des individus qui sont chacun pris dans la problématique de son destin.
Chacun semble tourner sur lui-même.
Ouais, ouais.
Il y a une danse.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, le groupe tourne en quelque sorte. C'est une sorte de ronde. On ne peut en voir que 5 sur les 6 maximum.
France Culture, une émission de Jean d'Ève, 2001. Jean-Marie Meuglin.
Mais oui, dans l'histoire des bourgeois de Calais, le monument de Rodin, c'est à la fois un aboutissement et un nouveau départ. Un aboutissement, l'aboutissement des efforts des Calaisiens pour défendre l'honneur de la ville, l'honneur de Calais et des six bourgeois de Calais. Et c'est un nouveau départ parce que Rodin va rompre totalement avec cette tradition qui remontait à très longtemps d'un héroïsme joyeux de gens qui sont heureux de se sacrifier pour la patrie. Pourquoi Rodin a-t-il rompu avec cette tradition? Eh bien, très probablement parce que Rodin, qui avait été très peu à l'école, n'avait pas été finalement marqué par cette littérature historique. Il relit le récit de Froissart, ce récit qui avait été recouvert par tous les historiens ultérieurs, et il redécouvre des hommes qui ont peur de mourir.
Mais le maire, au moment de l'inauguration, vous racontez la cérémonie en 1895, dit, attendez, ils vont se ressaisir, là pour l'instant, ils sont dans une situation de douleur et d'hésitation, mais ils vont se ressaisir, ils vont aller bravement jusqu'au camp anglais.
Oui, parce que Rodin a pu travailler seul, à partir du moment, vous l'avez dit, où il y a cette faillite, où se trouvait l'argent qui avait été réuni pour la souscription. Les Calaisiens n'étaient pas du tout contents du premier travail de Rodin, mais au moment où ils vont lui demander de changer sa sculpture, eh bien la banque fait faillite, il n'y a plus d'argent. Rodin continue à travailler tout seul, suit son idée, et quand la sculpture est faite, Rodin est devenu le grand sculpteur de la République. Les Calaisiens ne sont pas très heureux de ce qu'il a représenté, mais on ne peut pas refuser cette sculpture.
Nous avons commencé à dessin cette émission avec le discours en 1959 du général de Gaulle en visite à Calais, en compagnie d'Yvonne Vandroux. Il s'est marié d'ailleurs à Calais. Il ne nous a pas semblé, à vous non plus, que le général de Gaulle parle des six bourgeois.
Effectivement, le général de Gaulle, qui connaissait fort bien Calais, puisque son épouse Yvonne était de Calais, son beau-frère Jacques Vandroux va être très longtemps maire de Calais, il ne me semble pas qu'il ait jamais mentionné l'épisode des bourgeois de Calais. Alors pourquoi? Je crois qu'il y a une explication évidente, c'est que l'homme du 18 juin n'était pas l'homme d'une capitulation. Et donc, pour lui, Calais est un symbole, parce que Calais est Calais, parce que c'est le symbole de l'intégrité de la France, du territoire de la France, de 1347 à la reprise de la ville en 1558, aux épreuves de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'est pas pour lui des gens qui capitulent.
Je disais que l'image des 6 ou 10 000 réfugiés s'est substituée à l'image des 6 bourgeois. L'image des 6 bourgeois s'est effondrée avant cette substitution. Dès les années 1970.
Oui, dans les nouveaux manuels scolaires, le grand récit, ce qu'on appelle le roman national, disparaît, l'histoire événementielle est remise en cause, et les jeunes générations, les Français qui sont nés à partir des années 1970, ne connaissent plus les bourgeois de Calais. À Calais, on connaît toujours les bourgeois de Calais, bien
oui,
sûr,
enfin,
parce qu'il y a
l'extraordinaire
monument de Rodin.
On n'a pas beaucoup rendu compte dans La Voix du Nord de votre livre chez Albin Michel, qui est paru pourtant il y a peu d'années. Vous dites, ils font figure de père la morale, mais en même temps, les exigences de la guerre, les conséquences de la guerre plutôt, et les exigences de la morale sont revenues aujourd'hui à Calais. Vous êtes demandé ce qu'un réfugié, s'il accède au centre-ville, parce qu'en général il ne s'y montre pas, pourrait penser devant le monument
mais
de Rodin.
Je crois que s'il regarde le monument de Rodin, il retrouve tout de même, débarrassé de tout cette morale, cette rhétorique qui nous paraît effectivement totalement surannée, il retrouve des gens qui se battent pour leur vie. Et là, après tout, je crois que ça peut parler à tout le monde. Hein. Le monument de Rodin reste le grand monument de la sculpture moderne et un monument absolument extraordinaire.
Puis on peut comprendre le désarroi des habitants, des citoyens de Calais, parce que Calais fut grande. Et aujourd'hui, tous ceux qui font craindre la multiplication de petits Calais rapetissent le nom de cette ville.
Oui, mais n'oublions pas non plus que les Calaisiens, en 1347, ont été chassés de leur ville. Hein, et finalement, par-delà les siècles, on retrouve ces hommes et ces femmes qui sont obligés de partir sur
la route. Attendez, chassés de leur ville, Eustache de Saint-Pierre, il a eu une pension, il a récupéré ses biens
et ses
maisons, mais les habitants de Calais ont été expulsés.
Bon, ont été probablement morts pendant le siège. On sait que les petites gens avaient été, c'était un procédé classique dans la guerre de siège, avaient été chassés de la ville parce que c'était des bouches inutiles. Alors les récits des chroniqueurs ne sont pas très clairs, mais il semble bien qu'un certain nombre soient morts entre les lignes anglaises et la ville de Calais. Et les autres, les bourgeois, ont été chassés, sauf Eustache de Saint-Pierre et peut-être deux ou trois autres, ont été chassés de la ville et ont dû partir, faire leur existence, trouver une autre existence ailleurs.
Et vous qui dites qu'il faut examiner les chroniques de près, vous les fréquentez beaucoup, ben, vous dites que selon les unes, selon les autres, les versions diffèrent quant à l'accueil qu'ont fait les Français aux réfugiés venus de Calais, mais là je parlais comme vous de 1347 et des années suivantes. L'émission a été réalisée avec le concours de Franck Oliva, Frédéric Martin et Ilinka Negulesco par Stéphane Ronxin, avec à la technique Sacha Torpe.